canadienne, veut, veut pas, c'est quand même la plus importante frontière entre deux pays sur Terre, essentiellement. Bref, on va espérer qu'il y aura des concessions qui seront faites,
Ouais.
mais
Parce que
je dirais une chose.
Donald Trump, Nick, nuit un peu à certains entrepreneurs aux États-Unis parce que eux, ils avaient un deal d'à peu près 30% quand ils achetaient au Canada, là. Tu sais, avec le
Oui, ben.
dollar canadien qui est très bas, qui va probablement descendre encore, être autour de 68-69 cents. Tu sais, t'as un deal de 31% quand t'achètes au Canada, puis là, tout d'un coup, t'as le gros orange qui dit 25%. Ben là, t'as quoi? Il te reste un 6% de différence quand t'achètes au Canada. C'est assez particulier, là.
Ben, c'est un peu particulier, effectivement. Surtout que la guerre commerciale en ce moment, ça affecte vraiment la valeur du dollar. Là, je pense qu'on est environ à 68 cents pour un dollar US présentement. Donc, c'est pas parfait. Là, on est loin de ce qui serait plus avantageux. Par contre, ça va être intéressant pour nos exportations, ce qui est assez particulier parce que présentement, les tarifs s'appliquent à nos exportations, mais un dollar canadien plus faible fait en sorte que c'est plus facile pour les Américains ou pour n'importe
Exact.
qui d'acheter ici. Donc, c'est effectivement, les contre-coûts sont plus importants vers les Américains dès le départ, parce que eux, ça va affecter ben, déjà 10% pour le pétrole, c'est quand même pas rien, mais aussi 25% pour un paquet d'autres biens, incluant l'aluminium. Je veux dire, les Américains vont payer en premier, puis nous, ça va être un peu plus tard. Mais de l'autre côté, ce que je dois déplorer, par contre, c'est la tactique qu'on emprunte jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une tactique d'imposer nous-mêmes des tarifs pour essayer de se venger des tarifs qui sont imposés à nos produits. Parce que, d'un, on fera pas grand-chose, disons, aux Américains avec nos tarifs. Là, disons là, franchement, la seule chose que ça va faire directement, par contre, c'est augmenter les prix dans les épiceries et ou du moins sur les étagères d'à peu près tous les magasins, parce que veut pas des tarifs de 25% sur autant de produits, ça va augmenter l'inflation. Et je tiens à rappeler qu'on sort quand même de la pire crise inflationniste des 40 dernières années. Donc, je veux dire, si on a eu de la difficulté à passer au travers d'une inflation qui frôlait les 8-9 % ou 20 % à l'épicerie pendant les deux dernières années, je veux dire, qu'est-ce que les gens vont faire face à une inflation de 25 % doublée d'une récession? Donc, je pense que l'approche va être beaucoup plus constructive puis pragmatique et essayer plutôt d'aller vers des incitatifs, réduire les impôts, les taxes pour les impôts pour les entreprises, les taxes pour les particuliers, puis essayer de faire en sorte que les gens, oui, se tournent vers la consommation locale, mais qu'ils ne soient pas non plus pénalisés par une inflation qui va affecter leur pouvoir d'achat.
On pourrait-tu faire les deux, Nick, juste pour être sûr d'avoir un genre d'impact au niveau des États-Unis si jamais les gens n'ont pas la possibilité ou l'envie de suivre le courant qui est actuellement très, très positif. En fait, là, on le voit, mais jusqu'où est-ce qu'on peut le tenir, justement, si on impose ces tarifs-là douaniers, ben, ça va faire monter le prix de plusieurs produits. Si ceux canadiens descendent parce qu'on a une exemption de taxes et impôts, puis que le ratio est ajusté, puis que les entreprises veulent suivre en fait la danse, puis se soutenir tous et chacun, il faut quand même réussir à tenir tête un peu aux États-Unis. Est-ce qu'on peut faire les deux ou c'est impensable?
Oui, on peut absolument faire les deux. Je pense que c'est important de tenir tête aux États-Unis puis de faire en sorte que nos entreprises puis que notre pays, peu importe notre position, qu'on soit plus un nationaliste québécois ou un albertain, ben que au final on soit tous gagnants. Mais là, malheureusement, je dirais que dans une guerre commerciale, il n'y a jamais de gagnants. Il n'y a que des perdants des deux côtés. Par contre, au-delà, oui, des tarifs, parce que ça c'est quelque chose que j'ai toujours déploré, parce qu'un tarif à la fin de la journée, c'est une taxe et donc ou un droit de douane. Mais au final, un prix qui augmente pour les consommateurs. Je pense qu'il y a aussi une approche beaucoup plus constructive qu'on peut aussi utiliser, c'est-à-dire vraiment de diversifier les exportations du Canada, parce qu'on a remarqué à quel point on était vraiment dépendant au niveau de nos exportations vers les États-Unis. Si on est aussi craintif de la situation actuelle, c'est entre autres à cause de ça. Mais il y a aussi la notion même qu'il y ait des barrières commerciales interprovinciales au sein même du Canada. Il y a eu des études qui ont été publiées au cours des dernières années qui démontrent que les barrières qui nous empêchent d'échanger entre provinces privent le Canada d'environ 90 milliards de dollars. Là, c'est vraiment énorme le potentiel qu'on aurait en tant que pays si on avait moins de barrières entre nous, un peu avec l'esprit de la Confédération de l'Union européenne, par exemple. Donc, nous, présentement, on a nous-mêmes des tarifs ou des limitations entre nous. Donc, si on s'en débarrassait et qu'en plus, on essayait d'exporter autant nos ressources naturelles, notre énergie, que notre savoir-faire vers d'autres clients que les Américains, ça serait une manière plus constructive, ne serait-ce que de garder notre économie en vie, de continuer à avoir de la croissance et de pas non plus être constamment perturbé par qui va être à la Maison-Blanche dans 4 ans, à savoir si c'est quelqu'un qui dit « Buy American » ou qui va mettre en place des programmes qui vont limiter l'accès aux Canadiens au marché américain. Donc, dans tous les cas, il faut voir tous les scénarios scénario possible, mais il faut faire attention aux questions de tarifs parce que c'est ça qui va vraiment faire mal au portefeuille des gens en général.
Quand est-ce que Christine Fréchette, parce qu'on sait que les chèques sont déjà écrits là, au nom de, mais quand est-ce que Christine Fréchette va commencer à les distribuer?
C'est une très bonne question. J'espère que la réponse, ça va être jamais. Essentiellement, là, on a vu ce que ça a donné. Justement, pour venir à l'inflation post-COVID, ça a été très influencé par la distribution de chèques à droite et à gauche, de l'augmentation de la masse monétaire en circulation qui a été provoquée par nos gouvernements avec les différents programmes d'aide à droite et à gauche. Et donc, c'est sûr que si on se relance là-dedans, en plus avec des tarifs, on n'est pas sorti du bois, mais pas pour Saint-Saëns au niveau de la perte de notre pouvoir d'achat. Donc, j'espère qu'il va y avoir des solutions plus intéressantes de la part de Christine Fréchette et du reste du gouvernement Legault. Une affaire, par contre, m'en avais entendu parler pas mal au courant des dernières semaines, mais on attend quand même une sortie de la part du ministre des Finances, Éric Girard, au courant de la journée par rapport au futur de l'impôt sur le gain en capital au Québec. Parce que là, on sait qu'au fédéral, on a reculé. Ouais. Donc, du moins, c'est reporté pour un an.
Puis félicitations en passant. C'est une belle victoire là, pour la Fédération canadienne des contribuables. Vous vouliez les poursuivre, là.
Oui, puis ben merci beaucoup, mais c'est pas terminé. On est encore en cours parce que pour nous, le principe va au-delà même de l'impôt sur le gain en capital.
Ouais.
On y va vraiment sur une base constitutionnelle pour éviter que ça se reproduise à nouveau et donc pour créer un précédent qui va empêcher toute agence fédérale de refaire ce qu'on a vu se dérouler. Mais effectivement, c'est une belle victoire pour les contribuables. On est très fiers de ça. On a hâte de voir si les libéraux, avec leur nouveau chef, vont faire une campagne électorale en promettant d'augmenter l'impôt sur le gain en capital en janvier 2026. On verra rendu là. Ceci étant dit, au moins cette année, ça n'a pas lieu, mais là, on sait qu'Éric Girard, au Québec, il voulait harmoniser son impôt sur le gain en capital avec le fédéral. Maintenant que ça n'aura plus lieu, il n'a comme pas vraiment le choix de se rétracter, et on espère qu'il va le faire pour la simple et unique raison qu'augmenter l'impôt sur le gain en capital, ça affecte aussi beaucoup les entreprises, et dans un contexte où est-ce qu'on tombe en guerre commerciale, affecter la productivité ou la compétitivité des entreprises québécoises et canadiennes, c'est la dernière des solutions à avoir. Donc, on espère qu'il y aura un recul de la part. Ça serait quand même pas pire d'avoir deux victoires sur l'impôt du gain en capital, tant au fédéral qu'au provincial, puis t'assurer d'au moins éliminer une mauvaise nouvelle parmi toutes celles qu'on voit défiler présentement.
Ah non, c'est incroyable. Puis je salue la gang du matin qui ont décidé de s'embarquer sur Facebook. Puis c'est une belle initiative. Eux, ils ont fait un post. Puis sur ce post-là, Nick, ça mentionne une entreprise québécoise ou canadienne qui gagne à être connue. Puis il y a plein de gens, des centaines de personnes qui sont allées écrire leur entreprise québécoise ou canadienne. Puis à ça, moi, j'ajoute les entreprises américaines qui emploient des Québécois. C'est parce que on parle beaucoup de boycott. Je trouve que le boycott peut être négatif là, pour des gens qui travaillent ici pour des entreprises américaines.
Il faut que ça scrute en tout cas.
Ouais. Exemple, à Québec, on a Pepsi là, qui procure de très, très bons emplois à des gens à Québec même.
On veut pas que ces employés-là paient encore plus et que les entreprises fassent faillite s'ils sont implantés ici. Tu as raison qu'il faut avoir un regard global.
C'est ça. On a des entreprises américaines aussi qui sont dans le merveilleux monde de la chip. Puis il y a des employés aussi qui travaillent pour cette entreprise-là. Puis c'est des gens de Québec.
Cependant, si le popcorn, cancan épicé pourrait faire faillite, même si c'est québécois-canadien, là, je serais quand même contente parce que c'est ça, c'est une légère addiction, mais continue, c'est une parenthèse. Là.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, il y a un beau mouvement qui se fait sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'il y en a qui sont un peu perdus, là, tu comprends, dans le fameux boycott. Tu es en train de nuire à ton voisin qui, lui, travaille pour une entreprise américaine. Mais de l'autre côté, les gens localement se prennent en main et disent « OK, ben plus que jamais, c'est le temps d'inciter tout le monde à acheter local. »
Ben oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleur moment que maintenant. Le pire, c'est qu'on s'est quand même passé le mot durant la pandémie. Je fais souvent le lien entre les deux parce que c'est deux crises qui succèdent et où est-ce qu'on a des gouvernements qui réagissent à peu près de la même manière. Mais on se rappelle qu'on avait eu toute la merveilleuse histoire du panier bleu durant la pandémie où est-ce que justement on voulait faire un pied de nez à Amazon parce qu'on remarquait à quel point, ben, à cause du fait que les gens ne pouvaient plus se rendre dans les commerces, ben, tout le monde se tournait vers les commerces en ligne. Et là, ben, soudainement, on voyait que Amazon en profitait pendant que nos aux entreprises locales s'effondrait. Donc, il y a eu comme un engouement pour encourager l'achat local. Puis, ça tient toujours, ou du moins, ça tient encore assez bien au Québec.
Mais le panier bleu, tu sais, on n'a jamais dit assez souvent que c'était un échec lamentable. C'est des gens qui ne savaient pas gérer, qui ont géré ça. Puis, ça nous donnait un peu le regard sur à quel point nous, en tant que citoyens, en tant qu'entrepreneurs, pour certains et autres, on doit mettre la main à la pâte parce que ce n'est pas l'idée du gouvernement qui, finalement, révolutionne le monde des affaires puis de consommer canadien.
Non, non. Puis, tu sais, quand ça a commencé, le panier bleu, en fait, il nous en avait parlé dans les médias. Puis moi, sur Twitter, j'avais écrit « On vous présente le nouvel Amazouf ». Et ça a terminé, effectivement, en Amazouf. Puis qu'est-ce que ça a donné, ça? Ça a donné des jobs à des gens qu'on connaissait. On a investi beaucoup trop d'argent là-dedans. Après ça, ça a fermé pour se rendre compte que sur Amazon, ben, il y a des entreprises québécoises aussi qui vendent sur Amazon.
Je pense que le mieux, c'est vraiment le bouche à oreille en ce moment. Puis les rapports d'entreprises entre elles. Soit si tu parles jamais d'une entreprise qui pourrait te fournir des matières de base pour toi créer ce que tu veux créer au sein de ta propre entreprise, c'est là où ça va faire les choses. C'est les communications entre entrepreneurs, entre provinces, c'est les barrières de gestion entrepreneuriale. C'est beaucoup plus entre nous versus nous entre et le gouvernement. C'est ça qui est particulier en ce moment, là.
Oui, absolument, parce qu'on va se dire, franchement, c'est pas comme si au Québec ou au Canada, on n'avait pas le potentiel d'être effectivement très prospère, ne serait-ce qu'être... On pourrait pas miser à 100% sur l'indépendance économique considérant notre contexte. On est quand même très interrelié avec les Américains. Comme vous entendiez il y a quelques instants, il y a beaucoup d'entreprises d'ici qui sont américaines, mais qui emploient beaucoup de Québécois et de Canadiens, et qui font en sorte qu'on peut pas simplement se tourner vers un boycott en pensant que ça va être une solution gagnante pour nous. Il faut aussi envisager, repenser notre économie. Puis je pense que quand on dit repenser, au-delà de faire des grandes réformes au niveau gouvernemental, on est plutôt on devrait plutôt réviser en fait autant les règles fiscales que les règles commerciales au Canada comme telles pour justement faciliter tout l'esprit de coopération entrepreneuriale. Mais il n'en reste que c'est ça. Il y a une occasion à saisir. J'ai répété à plusieurs reprises. Je me suis quand même trompé sur un prognostic. Je pensais que Trump bluffait par rapport à ses tarifs. Finalement, on voit très bien qu'il prêt à aller de l'avant. Ceci étant dit, maintenant, on doit saisir l'opportunité de renforcer notre économie, d'éviter de trop tomber dans le piège des guerres commerciales parce que je ne le répéterai jamais assez, il n'y a aucun gagnant là-dedans, tout le monde perd. Donc, il faut effectivement saisir cette opportunité-là, mais il faut être prudent et continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'au lieu qu'il se tourne vers des mesures pour envoyer encore des chèques à droite et à gauche et espérer que ça va fonctionner, alors que la dernière fois, ça l'a plutôt tenu pendant quelques semaines, puis on a réalisé à quel point finalement, c'était énormément d'argent qu'on envoyait dans la machine en observant l'inflation augmenter. Mais oui, je pense qu'il faut toujours être plus pragmatique et saisir les opportunités qui se présentent. Mais je suis persuadé qu'au courant des prochains mois, on va voir beaucoup de changements. Et sinon, ben, on va espérer que les élections fédérales d'ici la fin de l'année vont peut-être emmener une gouvernance un peu plus sûre au Canada. Parce que pour l'instant, je tiens à le rappeler, on a quand même une guerre commerciale, puis on a un premier ministre qui a démissionné, puis on a un parlement qui est fermé. Donc, ça part un peu mal au niveau de ceux qui nous dirigent, mais entre nous, entre entrepreneurs, je suis d'accord avec Pascal, on peut se soutenir.
Oui, mais qui ne peut pas être d'accord avec ça? T'sais, tout le monde est d'accord avec ça. Je veux juste revenir sur ce que tu as mentionné. T'sais, tu pensais que Trump bluffait. Je pense qu'il bluffe encore. Le Mexique va être exempté pour 30 jours. Le Mexique va amener comme son armée aux abords de la frontière. Puis dans 30 jours, on en reparlera. J'imagine que ça va se régler dans les prochains jours avec le Mexique. Puis à 15 heures, là, je gage un 2 avec toi que ça va être la même affaire. On va avoir un 30 jours ou un 15 jours, mais je pense qu'on va avoir la même affaire à peu près que le Mexique. Parce que je lisais les journaux en fin de semaine là, aux États-Unis, puis tout le monde traite Donald Trump de toutes sortes de noms. Là, puis ça commence par des gens qui sont très près de l'administration. Donc je suis persuadé, moi, qu'à 15 heures, on va avoir le résultat que le Mexique a eu, c'est-à-dire un 30 jours supplémentaire. Mais là, on va voir plus de gens qui vont être aux frontières. Ça va-tu être la GRC qui va patrouiller? Ça va-tu être plus de drones?
En vrai, je suis pas certaine.
J'en suis persuadé.
J'ai hâte de voir.
Je suis persuadé qu'il bluffe. T'sais, on en parlait avec Adrien Pouliot tantôt. On a lu, j'imagine que tu l'as lu toi aussi, Nick, « The Art of the Deal ». de Donald Trump. Tout ça, c'est écrit dans son livre des années 80.
Sauf qu'il ne peut pas bluffer constamment sur chaque chose qu'il dit. Puis là est la problématique parce que le gars, il a 4 ans à faire. Peut-être que mi-mandat, ça va moins bien aller. Mais il a 4 ans à faire. Puis s'il veut démontrer qu'il y a une colonne vertébrale et autres, il faut qu'il démontre qu'il est capable de passer à l'action. Puis là, ça fait plusieurs bluffs, sinon, qu'on endosserait du côté de Donald Trump. Il n'aime vraiment pas Justin Trudeau. Il veut vraiment avoir un certain pouvoir sur le Canada. Il adore nos ressources naturelles. Il y a peut-être quelque chose qu'il souhaite aller chercher là. S'il bluffe encore, puis là, je sais pas, là, on va voir à 15h, s'il bluffe encore là-dessus, il appauvrit sa position de leadership à l'international. C'est scruté par tout le monde en ce moment, ce qui va se passer. Pas juste nous, les conséquences douanières.
Je serais d'accord avec toi s'il ne l'avait pas fait avec le Mexique.
Je comprends, mais on dirait que les dispositions politiques, c'est pas les mêmes. Nous, on est beaucoup plus engagés avec les États-Unis que le Mexique. Je te dirais que l'analyse actuelle, moi, je vais rester avec un pas sur deux en arrière parce que Donald Trump ne peut pas bluffer autant qu'il le souhaite, là. Il est vraiment scruté par ses ennemis qu'il veut allier à l'international.
Il y a 2 piastres en jeu, Pascal.
Mais comme je te dis, j'ai pas de position. C'est une analyse. Mais moi, j'ai pas pris de position. Je te dis juste qu'il ne peut pas bluffer constamment.
Moi, je dis qu'il bluffe, Pierre.
Sinon, ben parfait pour nous autres, parce qu'il va mal passer à l'international.
À 16-17h, on aura les réponses de sa conversation avec Justin Trudeau. Toi, tu dis qu'il bluffe plus, c'est ça?
Ben, c'est clair que quand il est rendu au point de signer un décret, on a quand même passé le point du bluff. Par contre, est-ce qu'il va faire un recul par la suite pour se réorienter vers une nouvelle approche? C'est sûr que ça fait partie de son caractère. C'est un bully, c'est un intimidateur, puis en affaires, il a toujours été comme ça.
Ouais.
Donc, il y a quand même des bonnes chances qu'effectivement, il va se rétracter, mais il va pas se rétracter sans faire un gain. Ça, c'est garanti. S'il sort de la conversation avec Trudeau en disant qu'on repousse de 30 jours, qu'on annule les tarifs, c'est parce que Trudeau va avoir fait une concession très importante.
Oui, mais ce qui est particulier aussi, c'est que là, la semaine dernière, on parlait du 1er février, mais on avait aussi le 1er mars. Fait que c'est-tu quelque chose qui, d'entrée de jeu, avait été lu entre les lignes par certains analystes, puis qui était quand même dans la mire de Donald Trump de donner ce tampon-là, donc de y aller avec exécution, d'annoncer quelque chose, mais finalement de donner le tampon d'un mois. Et rappelez-vous, là, vendredi dernier, on ne savait pas si c'était le 1er février, si c'était le 1er mars. Ça avait-tu déjà été calculé? Des choses qu'on va pouvoir aussi voir dans quelques heures.
Absolument. Fait qu'on va espérer que dans tous les cas, ça va être suspendu. Ceci étant dit, j'ai hâte de voir ça va être quoi la concession, parce que je pense que malgré tout ce qui a été fait, on s'entend que c'est pas comme si le gouvernement de Trudeau non plus avait pas pris au sérieux la question, par exemple, de mettre effectivement plus de sécurité aux frontières dans les dernières semaines. Ça a été quand même annoncé. Ils ont même mis 1 milliard de plus. Il y a en fait un programme d'environ 1,3 milliard de plus pour sécuriser la frontière. Donc, il y a quand même de l'argent et des personnes déjà sur le terrain pour faire exactement ce que Trump veut.
Ouais.
Donc, j'espère que la concession ne sera pas supplémentaire, à savoir si on doit fixer des tarifs, s'il y a certaines... Bref, d'une manière ou d'une autre, on verra en temps et lieu.
Mais là, on spécule, là. Ouais, c'est ça. Hey, merci, Nicolas. En passant, Maxime Larouche, notre collègue là, pour toutes celles qui cherchent des produits canadiens sur lesquels jeter leur dévolu, il est 100% pur canadien.
Parfait.
Bon,
on va encourager ça.
Salut, Nick.
Salut, à bientôt.
Merci beaucoup. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Pour en savoir plus sur la FCC, eh bien, c'est contribuable.ca avec un S, contribuable.ca. Nous, on fait une courte pause et après la pause, en fait, ça va être une toune que je vais vous présenter dans les prochaines secondes. On jase avec David Chabot qui va nous parler de ce qui se passe au Congo. C'est le Rwanda qui a envahi le Congo. Des militaires canadiens aussi qui sont sur place, qui ont craint pour leur vie dans les dernières heures. Fait qu'on va parler de ça avec David Chabot. Sinon, dans les prochaines secondes, ce qu'on vous pousse dans vos oreilles, un band qui nous a fait triper comme pas possible, Green Day, Boulevard of Broken Dreams sur Boulevard. Si vous avez des choses à nous dire, 418-971-1021. I walk alone.